Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On peut prendre toutes les mesures qu'on veut, mais il faut absolument qu'elles soient respectées. Sans ça, on ira vers une vraie saturation du système de santé, on ira vers un confinement généralisé, des fêtes de fin d'année qui seront tous sauf des fêtes familiales.
Le spectre d'un reconfinement national généralisé, le gouvernement à l'heure des décisions difficiles.
Oui, face à une deuxième vague qui s'annonce plus forte encore que la première, des mesures radicales devraient être annoncées d'ici jeudi.
Tout le monde à la maison, ou presque, les enfants pourraient être en partie épargnés par ces nouvelles mesures, les écoles pourraient rester ouvertes.
Avant même les annonces officielles, la grande distribution se prépare et se dit prête. Elle veut à tout prix éviter les pénuries qui avaient marqué, souvenez-vous, le début du premier confinement.
La crise diplomatique entre la France et la Turquie, Europe 1 est à Istanbul. Les Turcs divisés alors que leur président appelle à boycotter les produits français et cible Emmanuel Macron.
Ils ne sont plus que quatre, les quatre finalistes de prix Goncourt. Pas de stars, mais quatre écrivains que nous apprendrons à mieux connaître à la fin du journal.
Et puis nouvelle chute pour la Bourse de Paris qui termine ce soir en forte baisse de 1,77% à 4730 points.
La tendance météo du lendemain avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir,
journée très nuageuse au programme.
Oui, avec en plus des nuages, des averses sur une grande partie du pays, le vent qui va souffler fort sur la moitié nord, des températures qui, elles, seront de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et les prochaines 24 heures seront donc décisives. Les autorités consultent avant l'annonce d'un tour de vis, alors que tous les médecins et épidémiologistes s'accordent à dire que la seconde vague sera pire que la première.
C'est un nouveau tournant, nous sommes, c'est vrai, un point de bascule et le gouvernement s'apprête à prendre de nouvelles mesures qui pourraient être, nous dit-on, radicales.
Oui, Louis de Raguenel, aujourd'hui vous nous dites que l'hypothèse d'un reconfinement généralisé, que cette hypothèse n'est plus taboue.
Oui, et ça va même au-delà, c'est l'option sur laquelle travaille désormais le gouvernement. Quand le Conseil de défense s'est réuni ce matin, il y avait encore trois pistes sur la table. Tout d'abord, le couvre-feu à 19h et le week-end, le confinement local et donc le confinement partout en France. Et c'est vers cette troisième hypothèse qu'on se dirige ce soir. Alors, tout peut encore évoluer car la décision finale sera prise à l'issue du deuxième Conseil de défense qui se tiendra demain matin. Mais ce qui est certain, c'est que ce nouveau confinement ne ressemblera pas exactement à celui de mars. D'abord, il devrait durer 4 semaines, mais 4 semaines reconductibles. Ensuite, si le télétravail devrait être quasi obligatoire et que les commerces considérés comme non essentiels devront fermer, en revanche, les écoles et les collèges devraient rester ouverts, mais avec de nouveaux protocoles sanitaires. Et je peux vous dire qu'actuellement, le ministère de l'Économie et des Finances bataille pour élargir la liste des dérogations qu'on avait connues en mars, avec un seul but: éviter l'effondrement de l'économie. Un conseiller de l'exécutif explique l'enjeu. Si le président a vidé son agenda, que les partis politiques et les syndicats sont reçus, ce n'est pas pour annoncer des changements d'horaire de couvre-feu. Et il conclut, c'est pour annoncer quelque chose de grave et de dur. Et c'est vrai que le programme de l'exécutif a été totalement chamboulé. Les responsables des partis politiques sont actuellement reçus pour consultation à Matignon, puis ce sera au tour des partenaires sociaux en début de soirée. En tout cas, nous devrions tous être fixés demain soir, comme lors du premier confinement. Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français.
Merci Louis de Raguenel, du service politique d'Europe 1. Et ces mesures pourraient prendre effet dès ce week-end.
Et on l'évoquait à l'instant, il y a la question de l'éducation importante. Faut-il fermer ou non les écoles ? Victor Dolande, a priori, là aussi, le gouvernement pourrait revoir sa copie du printemps.
Oui, pas question, a priori, de laisser les élèves éloignés de l'école trop longtemps. On a vu les ravages du décrochage scolaire sur nos enfants après le confinement. Et puis l'école n'est pas un lieu de super contamination, comme l'explique Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes, parce qu'on sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, ils sont moins contaminants. Quand je parle des écoles, je parle des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées, encore moins des facultés.
Et pour les collèges et surtout les lycées et facultés, les épidémiologistes s'accordent à dire qu'il faut faire quelque chose. Entendez passer tous les cours au lycée et à la fac en distanciel et renforcer le protocole sanitaire au collège. Enfin, qu'en est-il sur le port du masque dès le CP? Comme l'ont fait avant nous nos voisins italiens et allemands, la question n'est pas encore tranchée, mais les médecins poussent le gouvernement à le faire. C'est une précaution de plus, il faut arrêter de tergiverser, me glissait tout à l'heure un spécialiste de santé publique. Réponse donc demain après le deuxième conseil de défense.
Merci Victor Dolande pour ces précisions du service Société d'Europe 1.
Et voilà donc que ressurgit la perspective de longues semaines à la maison. Alors on se souvient qu'au début du premier confinement, les Français s'étaient rués dans les supermarchés pour faire des provisions, des stocks de papier toilette, notamment de farine ou de pâte, entraînant des pénuries momentanées.
Alors va-t-on revoir ces produits manquants dans les rayons, comme parfois au mois de mars? Pour l'instant tout va bien et cette fois Carole Ferry, la grande distribution a pris des précautions.
Et oui, les grandes grandes surfaces ont commandé plus qu'elles n'ont vendu au mois de septembre. 12% de plus, tous produits confondus, selon l'ILEC, l'Institut d'études des industries de consommation. Le rythme des commandes s'est même accéléré fin septembre, en particulier auprès des fabricants de produits d'entretien, de conserves de légumes et de surgelés salés. Le président de Panzani, Xavier Riescher, a même vu ses commandes de pâtes augmenter de 30% ce mois-ci.
La distribution avait des stocks. Nous-mêmes, on a augmenté nos stocks, ce qui fait que cette année, s'il y a une deuxième vague, on est beaucoup plus serein. Les choses sont bien gérées, il n'y aura pas de rupture de blé, il y aura suffisamment de blé pour pouvoir assurer l'ensemble de la production.
Et oui, parce qu'on était passé à deux doigts d'une pénurie de blé au printemps dernier. Les ventes de pâtes avaient à ce moment-là augmenté de 100% alors que la récolte était terminée et la production écoulée. L'État avait à ce moment-là débloqué en urgence des réserves destinées normalement à l'exportation. Cette fois-ci, donc, fabricants et distributeurs ont bien anticipé, mais rappelle que c'est la ruée disproportionnée sur les rayons qui avait provoqué des ruptures d'approvisionnement. Il y a du stock partout, ne rejouons pas mars 2020, tweet même ce soir Michel-Édouard Leclerc.
Tout ça vaut papier toilette.
C'est Carole Ferry de Service Éco d'Europe 1. Notez que tous les EHPAD de France recevront d'ici la semaine prochaine des tests antigéniques, vous savez, qui réduisent les délais de dépistage du coronavirus, qui devraient permettre en théorie d'éviter le développement de clusters.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h08, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Emmanuel Macron continue donc de subir les foudres d'une partie du monde musulman après avoir défendu la liberté de caricaturer le prophète Mahomet.
Oui, c'est vrai que plusieurs pays du Moyen-Orient appellent au boycott des produits français et de nouvelles manifestations ont d'ailleurs eu lieu aujourd'hui, notamment à Dhaka au Bangladesh, rassemblement qui a réuni plus de 40 000 personnes.
Alors on évoquait hier les sorties très virulentes du président turc contre Emmanuel Macron. Europe 1 a voulu savoir comment réagissait la population sur place à Istanbul, où l'on retrouve notre envoyé spécial.
Jean-Sébastien Soellaini, que l'on retrouve tout de suite. Jean-Sébastien, vous êtes arrivé sur place hier soir. Alors, en tant que Français, comment s'est déroulé votre premier contact ?
Eh bien, ce premier contact a été plutôt glacial. Ce n'était pas en Turquie, c'était en salle d'embarquement à Roissy. Mon avion devait arriver très tard. Je tente donc d'interroger les Turcs qui rentrent chez eux. Mais là, sur la cinquantaine de passagers, c'est à chaque fois refus catégorique. La même moue réprobatrice, c'est resté très courtois, mais c'était clairement une réaction de rejet. Ces passagers me font bien comprendre qu'ils ne veulent pas me parler, qu'ils n'apprécient pas la façon dont les médias français se sont emparés de la polémique entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan. Vu le contexte, c'est donc un peu méfiant que je me rends ce matin dans un bastion du président turc, le quartier de Kasımpaşa, où il est né, où il a grandi. Je m'attends à quelques remarques, mais non, j'y suis très bien accueilli. Les habitants m'expliquent pourquoi ils approuvent le boycott voulu par Recep Erdogan. Ils expliquent sereinement que leur chef d'État ne fait que défendre l'islam, même si ces mots sont très durs. Et pour vous dire à quel point je suis bien accueilli, le propriétaire du café où je me suis installé pendant 2 heures pour travailler a refusé que je paye mes consommations. Sa justification: quand un ami vient chez moi, je ne lui fais pas payer le repas.
Bien, léger changement d'ambiance. En revanche, Jean-Sébastien, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, léger changement d'ambiance quand vous êtes arrivé dans les quartiers ultranationalistes.
Oui, là c'est plus compliqué d'aborder les passants. Ils s'arrêtent gentiment quand vous leur parlez, mais ils tournent les talons quand vous leur dites que vous êtes français. Je tente alors ma chance dans un café. À peine une discussion entamée qu'un client m'interpelle. Il veut à tout prix exprimer son désaccord avec la position française sur les caricatures de Mahomet. Le ton est vif. En revanche, tous les clients rencontrés ont ce même argument. Ce n'est pas au peuple français qu'on en veut, mais à leur président. Hors de question d'effrayer les touristes déjà très absents des rues d'Istanbul à cause de la pandémie.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial donc d'Europe 1 à Istanbul. Et Paris invite ce soir ses ressortissants à la prudence dans les pays du monde musulman où ont lieu des manifestations contre la France.
En France justement, la fermeture temporaire pour 6 mois de la mosquée de Pantin a été validée par la justice administrative.
Elle était réclamée par le ministre de l'Intérieur après l'assassinat de Samuel Paty. Les avocats de la Fédération musulmane de Pantin annoncent qu'ils vont saisir le Conseil d'État. C'est un poids lourd de la restauration collective. Sodexo s'apprête à supprimer plus de 2000 emplois victimes de la crise et du recours au télétravail. On y reviendra dans notre journal de 19h.
Dans la crise que connaît actuellement notre pays, c'est sans doute l'un des rares secteurs à sortir la tête de l'eau, l'édition.
Et oui, les Français ne pourront peut-être bientôt plus aller au cinéma ou au théâtre, mais lire, ça c'est encore possible et c'est même vivement conseillé pour éviter la déprime.
Oui, parmi les succès des édition chaque année, évidemment, le prix Goncourt. Alors on connaît depuis aujourd'hui les quatre finalistes.
Et pas de vedette, Nicolas Carreau.
Et non, et c'est une première, les quatre finalistes ont été désignés par vidéoconférence. Alors par ordre alphabétique, comme dans les prix littéraires, Djaili Amadou Amal d'abord, publiée pour la première fois en France, elle est camerounaise et signe Les Impatientes chez Emmanuel Colas. Elle y raconte le destin de trois femmes au Sahel, des destins qui se croisent avec au cœur du roman la condition des femmes, la violence, le mariage forcé. Ensuite, Hervé Le Tellier, L'Anomalie chez Gallimard, c'est un roman génial, complètement dingue. Un vol Air France Paris-New York est dupliqué, c'est-à-dire que tous les passagers se retrouvent avec un double d'eux-mêmes dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est virtuose. Maëlle Renoir, ensuite, chez Grasset, L'Historiographe du Royaume, ça se passe au Maroc. Le narrateur se retrouve au Collège Royal avec le prince. Il sera nommé Historiographe du Royaume, écrivain officiel si vous voulez. Et ce faisant, on revisite toute l'histoire politique du Maroc du début des années de plomb. Et enfin, Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo chez Verdier. Un homme fuit un souvenir, un secret. Il laisse tout, il part avec sa famille, mais le passé le rattrape et il lui faut l'affronter.
Vous avez un préféré, Nicolas ?
Oui, Hervé Le Tellier, L'Anomalie.
Il ne faut pas le dire.
Nicolas Carreau, spécialiste littérature d'Europe 1.
Rendez-vous le 10 novembre pour connaître le lauréat. Notez que ce soir, c'est aussi le Festival de Cannes. Et oui, tapis rouge, projection, palme d'or, mais en mode Covid. On en parlera tout à l'heure à 19h50.
Et puis on parlait de la Turquie. Et bien demain, le PSG joue à Istanbul justement contre le Başakşehir en Ligue des Champions. Rennes sera également demain sur le terrain du FC Séville.
Mais ce soir, c'est l'OM qu'on va suivre bien sûr. Marseille qui reçoit Manchester City en Ligue des Champions. Match à huis clos, et oui, contexte sanitaire oblige.
Les Marseillais qui ont à cœur de se rattraper après leur défaite la semaine dernière contre l'Olympiakos. Coup d'envoi à 21h, mais grosse soirée foot, hein, dès 20h sur Europe 1, sous la houlette de Lionel Rousseau.
Et puis le numéro 1 français du tennis, Gaël Monfils, met un terme à sa saison 2020. Il ne jouera donc pas le Master 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine.
Oui, il va pas fort, Gaël Monfils. Le confinement m'a éteint, dit-il. Il m'a fait beaucoup de mal. Je suis revenu sans avoir énormément de confiance. J'ai pas du tout réussi à m'adapter, à faire les bons choix. Gaël Monfils qui évoque une grosse spirale négative avec beaucoup, beaucoup de manque de confiance.
Bah dites donc, ça va pas fort, effectivement. J'espère que vous allez mieux, vous, Isabelle Millier, parce qu'on a besoin de vous. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le grand